communauté, en groupe, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'encourager alors que les premiers chrétiens étaient persécutés. Mais un texte hors de son contexte devient un prétexte. Et pour comprendre Acte 20, il faut comprendre qu'avant Acte 20, bien, il y a Acte 19 dans l'Évangile, dans les Écritures. Et dans Acte 19, on voit à quel point l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul qui s'est converti au christianisme alors que lui persécutait les chrétiens, alors que lui dormait spirituellement, et Dieu le confronte, Dieu lui dit « Arrête de persécuter les chrétiens, et maintenant je veux que tu me serves maintenant. » Donc l'apôtre Paul, qui a été aveugle pendant un certain temps, retrouve la vue, et après ça, Dieu l'appelle à vraiment aller prêcher l'Évangile, à devenir un apôtre, et à vraiment implanter des églises. Et il y a des responsables que l'apôtre Paul assigne dans plusieurs villes, et leur envoie des lettres, parce qu'il peut pas nécessairement, bien sûr, envoyer de courriel, mais il peut pas se rendre rapidement, donc il envoie des lettres à telle église pour les encourager, pour les édifier. Et ces lettres sont adressées à des communautés pour les instruire, pour les encourager dans la foi. Mais le problème, c'est que le message de l'Évangile se répand. Ça se répand, ça se répand, ça se répand partout. Et particulièrement à Éphèse, il y a un petit problème. Parce que les gens, les artisans, avaient l'habitude de faire des statues pour la reine Artémis, pour l'idole qu'ils avaient, Artémis, qui était un faux dieu de l'époque. Et ils faisaient des statues à l'effigie d'Artémis pour la glorifier, pour lui rendre gloire. Mais le problème, c'est qu'eux autres, ils faisaient beaucoup d'argent avec ces statues-là. Donc, ça venait attaquer l'économie de ces gens-là. Puis ils ont dit, ben pourquoi, si lui, là, son affaire de l'Évangile se répand partout, là, ça va avoir un impact sur notre économie, là. Fait que tout les regroupements des artisans ont commencé à se regrouper, puis dire, hey, faut qu'on arrête, il paraît qu'il y a un Paul, il paraît qu'il y a des chrétiens, on doit freiner ce christianisme, parce que sinon, on ne pourra pas mettre de pain sur notre table. En acte 19, il y a une émeute, ils se rendent au théâtre d'Éphèse, il y a une émeute pour que, bien sûr, l'apôtre Paul soit mis à mort, mais que le christianisme soit fini. Donc, imaginez, l'apôtre Paul se retrouve dans cette situation-là où, OK, je dois vous encourager, mais en même temps, ils veulent ma mort, mais il veut continuer, il persévère, il ne lâche pas. Fait que dans Acte 20, l'apôtre Paul se retrouve dans tout ce contexte-là, dans ce contexte de, ouf, de stress, un peu de peur, mais il continue d'encourager les chrétiens. Il se retrouve là à encourager les chrétiens et on voit que il est dans le texte qu'on va lire justement, on voit qu'il est là puis qu'il persévère et continue de les encourager malgré l'opposition. Acte 20, 7 à 12. Le dimanche, nous étions tous réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. L'apôtre Paul prêchait longtemps ce soir-là. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du troisième étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, et l'a pris dans ses bras en disant, « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Il n'est pas mort. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Donc, comme je le disais, il se retrouve dans cette maison-là, alors qu'il y a un contexte d'émeute, de colère contre les chrétiens. L'apôtre Paul est en train d'encourager ces chrétiens-là, fait une prédication qui dure jusqu'à minuit. Pour toi qui as déjà faim, là, sois en paix. On ne va pas terminer jusqu'à minuit aujourd'hui. Mais il va y avoir un food truck à la fin de la réunion. Bonne nouvelle, on va pouvoir manger. Dors-tu? Vous êtes là? Et puis l'apôtre Paul prêche jusqu'à minuit. Prêche, c'est long, c'est long, c'est long. Mais là, il y a un jeune homme qui s'appelle Eutychus, qui est là, qui est dans la salle, puis qui est comme, ouf, c'est bon le message de Paul, mais je veux juste aller m'asseoir sur le bord de la fenêtre du troisième étage. Puis Eutychus te dit, bon Paul, mais je t'avoue que je commence à être fatigué. Mais, c'est dimanche soir, une grosse semaine devant moi, mais là, je vais aller m'asseoir sur le bord de la fenêtre. Et Eutychus s'assoit sur le bord de la fenêtre, tranquillement. Tu sais, au début, il fait semblant, j'imagine, qu'il est en train de prier, mais là, tranquillement, il ferme les yeux, puis il commence à ronfler profondément. Est-ce qu'il y a des ronfleurs ou des ronfleuses dans la salle ce matin? Ronfle profondément et tombe du troisième étage. Un drame, il meurt. L'apôtre Paul, on voit qu'il va l'intervenir, il va l'aider, il le sauve, il prie pour lui, il revient à la vie, ce miracle-là prend place. Mais vous savez, ce texte-là, là, il aurait pu être enlevé des Écritures. Ce n'était pas nécessaire que Luc, qui écrit ça, mette ça dans le texte. Ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas obligatoire. Mais je trouve que c'est un bon texte qui résume bien le cœur de l'apôtre Paul. Ça dit beaucoup sur son cœur, ça dit beaucoup sur le climat, ça dit beaucoup sur ce qui prenait place. Et on peut utiliser ça comme une métaphore aussi. On peut utiliser ça comme une métaphore pour nous aujourd'hui, pour nous demander, est-ce que des fois, on peut être en train de dormir? Est-ce que des fois, on est dans une situation où on se dit, est-ce que je suis en train de dormir? Est-ce que je suis à la bonne place? Puis tout d'abord, vous avez entendu, mon titre, c'est « Dors-tu ?» Mais j'aimerais vous faire une petite recommandation personnelle. Moi, je crois que l'Église, c'est une communauté. On vit dans une communauté. Si je suis en train de dériver, si je vais dans une mauvaise direction, j'aimerais que vous, membres de Mosaïque, vous me disiez, « Emmanuel, mais tu vas pas dans la bonne direction. » Donc, le premier point ce matin, mon premier point, recommandation. Ne me laissez pas dormir sur le bord de la fenêtre. S'il vous plaît, ne me laissez pas dormir sur le bord de la fenêtre. Personne n'a osé avertir Eutychus. Personne n'a pris le temps de dire à Eutychus, « Mon homme, c'est pas une bonne idée de t'asseoir là, mon ami. Ça pourrait te faire mal. » Il n'y a pas une grand-maman dans toute cette gang-là qui est venue voir avec un cœur maternel dire, « Eutychus, c'est pas une bonne idée. » C'est Paul qui est en train de prêcher. « Eutychus, tu dors alors que Paul est en train de prêcher, voyons donc. » Vous savez quoi? Moi, je vous confesse ce matin, je m'endors des fois en écoutant un bon film avec mon épouse. Tu sais, je vieillis, je le vois, puis j'écoute un bon film tranquillement. Puis, elle me check tout le temps, elle est rendue habituée, là, mais là, moi, je regarde le film, là, j'ai découvert une stratégie, je garde un œil ouvert, comme ça, elle ne voit pas très bien, mais je suis en train de dormir profondément. Toujours mon petit moment. Au milieu du film, là, je me garde une petite pause sieste, ça m'arrive. Mais j'aime mon épouse, je l'aime de tout mon cœur, on passe un bon moment à écouter le film, mais je m'endors. Je me suis même déjà endormi, il y a un ami qui m'invitait à aller au cinéma pour ma fête, il disait « Man, on va aller au resto, après ça on va aller au cinéma, super. » Mais moi je sais que pendant le film, je m'endors, bro, je vais m'endormir, il y a des grandes chances. Hey, je m'endors pendant le film, mon ami, à un moment donné, il me dit « Hey, c'est bon, hein? Je suis en train de ronfler, je me sens tellement mal. » Même si j'aime mon épouse, même si j'aime mon ami, je peux m'identifier à Eutychus. Des fois, je m'endors lorsque je suis entouré des gens qui sont importants pour moi. Mais tout au long de son ministère, Paul, lui, là, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné de réveiller ceux qui sont en train de dormir. Il n'est pas gêné de te shaker, de dire, hé, dans un mode spirituel, là, c'est une métaphore ici, de dire, tu es en train de dormir. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Réveille-toi. Détourne-toi, tu es en train de dormir. Et juste dans 1 Corinthiens, on voit l'apôtre Paul qui est très intentionnel, en train de leur dire, hé, vous êtes en train de dormir, vous vivez dans le péché. Même qu'il doit reprendre des gens et dire, ben toi, tu ne pourras plus faire partie de cette communauté-là parce que tu causes du trouble autant à toi qu'aux autres. Puis je veux te dire ce matin, tu dors sur le bord de la fenêtre si tu fais juste consommer l'église en rangée. Tu dors sur le bord de la fenêtre si tu n'es pas en communauté et si tu fais juste venir à l'église comme si tu allais au cinéma seulement. Tu dors sur le bord de la fenêtre quand tu viens à l'église une fois par mois ou quand ça te tente ou quand ça te permet dans ton horaire. Tu dors sur le bord de la fenêtre quand tu viens à l'église seulement pour recevoir mais que tu ne t'impliques pas. Quand tu viens juste recevoir mais que tu ne donnes pas. Tu dors sur le bord de la fenêtre quand tu participes pas à un groupe élément. Quand tu n'es pas en communauté pour dire, OK, non seulement moi je reçois, je grandis, mais je contribue aussi pour aider les autres à grandir dans la foi. Tu dors sur le bord de la fenêtre. Je vais te le dire en toute honnêteté ce matin, tu es en danger. Attention, tu es sur le bord de la fenêtre quand justement tu es juste dans un mode de consommation chrétienne. Puis vous savez, des fois on pense qu'on doit faire 1500 implications, puis se donner, puis pour que Dieu nous approuve. Non, ça, c'est pas ça l'Évangile. Non, on est sauvé pour les œuvres et pas par les œuvres. Puis je veux aller dans la simplicité puis honorer 2 femmes ce matin, Yvonne et Monique. Mesdames, je m'excuse de vous mettre sur le spot, mais elles sont là tous les dimanches de l'année. Elles viennent, elles sont présentes, elles nous encouragent. Elle prie pour nous. C'est simple, juste par leur présence. Des fois, là, être réveillé spirituellement, c'est d'être présent. Merci, mesdames. Je voulais prendre le temps de vous honorer. Est-ce qu'on peut les remercier? Yvonne et Monique. On ne peut pas juger Éticus parce qu'on a tous déjà dormi sur le bord de la fenêtre. On a tous déjà dormi sur le bord de la fenêtre. On est tous déjà été dans une saison un peu où on était ou spirituellement, on se donnait pas trop, c'était so-so, on est juste en mode consommation, puis on dort sur le bord de la fenêtre, on prie pas trop. On est tous pécheurs. Romains 3, 23, puis c'est l'apôtre Paul qui le dit lui-même. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous pécheurs. Il n'y a personne de parfait ici. On a tous déjà dormi sur le bord de la fenêtre. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu l'as déjà été dans une saison dans ta vie. On est tous passés par là. On a tous déjà été dans une saison de sommeil spirituel. Moi, j'ai compassion pour Éticus. J'ai compassion pour lui. Quand je lis son histoire, j'ai compassion pour lui. Parce que peut-être qu'Éticus faisait de l'apnée du sommeil. C'était plus fort que lui. Il faisait de l'apnée du sommeil. Donc, même s'il voudrait écouter la bonne prédication de l'apôtre Paul, un des meilleurs prédicateurs de l'histoire, il peut faire ce qu'il veut. Il y a de l'apnée du sommeil. Tu sais qu'il est un snoozer professionnel. Il est habitué, lui, à snoozer. Mais là, c'est dur. Puis, Paul, j'ai fait un effort pour toi jusqu'à minuit. J'ai compassion pour lui. Mais vous savez, selon le contexte historique, le texte dit qu'il s'endort profondément. Il est vraiment en train de ronfler, il s'endort profondément. Puis nous, on lit ça, hein, c'est écrit au verset 8 et 9, ça dit « les lampes ». Il y avait des lampes, mais nous, on pense à des lampes qu'on utilise nous, chez nous, mais c'était des flambeaux. C'était littéralement du feu pour allumer bien la pièce, pour qu'on puisse bien se voir, et ça dégageait une chaleur, ça émanait une chaleur, il faisait chaud dans la pièce. Donc imaginez, ils étaient peut-être dans une petite pièce, donc il fait chaud, il est tard, il est jusqu'à minuit, puis l'apôtre Paul, il prêche. Donc imaginez, on peut comprendre que que s'endort. Donc, imagine la chaleur que dégage le corps. Facilement, tu es comme... Oh. Historiquement, les commentateurs bibliques disent que le jeune Eutychus pouvait avoir entre 8 et 14 ans. 8 et 14 ans. Il est à la bonne place. On le pardonne de s'endormir, cet ado. Parce qu'il aurait pu être ailleurs. Il aurait pu être en train d'être jouer aux jeux vidéo, faire du hockey, juste regarder la télé, niaiser sur son sel ailleurs. Mais non, Eutychus est là en train d'entendre la parole de Dieu. T'es un ado ce matin, t'es dans la salle, je veux te dire, t'es à la bonne place. Tu fais partie de la génération Z, Y, t'es à la bonne place. On est reconnaissant que tu sois là. Ça t'arrive de faire des erreurs, c'est pas grave. Mais on veut te dire, on est content que tu sois là, t'es à la bonne place. Qu'on peut encourager nos plus jeunes ce matin qui sont là, oui. On peut comprendre le ticus qui soit fatigué. On peut comprendre. Mais les disciples avec Jésus dans le jardin de Gethsémané, pas fort, les gars. Vous êtes avec le Créateur de l'univers. Il vous demande de prier avec lui pendant juste une heure. Puis vous n'êtes pas capable de prier avec lui. Les gars, il vous a averti qu'il allait mourir. Il vous a dit le plan de match. En plus de ça, vous vous endormez. C'est facile de les juger. Mais nous, chrétiens modernes, aujourd'hui, en 2023, on a nos somnifères inconscients. On est endormi dans certains aspects, mais des fois, on ne veut pas le reconnaître. On est endormi spirituellement, mais on ne veut pas l'admettre. Puis moi, le premier, tout ce que je vais vous énumérer, je suis dans le bateau, moi aussi, on est dans la même équipe. On est parfois endormi par notre confort. Dieu te demande d'aller dans une nouvelle direction, d'essayer une nouvelle discipline spirituelle, de t'impliquer, d'aller dans un groupe, de faire le mille de plus, de rester après la réunion pour parler avec les gens quand il va avoir le food truck, mais oh, je suis un peu gêné. Ou, mon confort, notre horaire, somnifère inconscient. Ah, oh, je suis trop occupé, mon travail, je peux pas, j'ai pas le temps. Je peux pas aller dans un groupe, j'ai pas le temps. Hey, si tu savais mon horaire, oh, non, j'ai pas le temps. Inconsciemment, on prend des somnifères et on devient inconscient. Les multiples activités, les activités le dimanche, ça, je peux pas venir à l'église, ça, le hockey, toutes sortes d'activités. On a tellement d'affaires, somnifères, inconscients. Le divertissement, on est tellement diverti qu'on devient étourdi, puis ça nous épuise, puis ça nous fatigue. Puis le matin, tu te réveilles, ben j'ai le choix de lire ma Bible ou regarder mon feed Facebook, mais finalement, on finit par être endormi. L'ennemi nous endort comme ça. Somnifères, inconscients. Parfois, il y a l'orgueil spirituel aussi. Dieu te dit d'aller dans une nouvelle saison, mais tu dis, ah non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai ma relation avec Dieu, je lis ma Bible, je prie. Je n'ai pas besoin de me joindre à un groupe. Je lis ma Bible, je prie. Je n'ai pas besoin de venir à l'église à tous les dimanches. Je suis correct. C'est une certaine forme d'orgueil de dire, non. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais c'est un somnifère inconscient. Parce que peut-être que Dieu veut t'amener plus loin. Puis la Bible nous appelle en chrétien d'aller de gloire en gloire. Et lorsque toi, tu décides d'utiliser ta maturité spirituelle et ton expérience, ça va bénir d'autres, ça va encourager d'autres. Attention aux somnifères inconscients. Il y en a qui sont des déceptions. Tu as été déçu, blessé par des pasteurs, des leaders, peut-être même par moi. Je m'excuse ce matin. Mais ne laisse pas tes déceptions, ce que les gens t'ont fait, des blessures, des attentes, t'empêcher d'être éveillé pour servir Dieu, pour t'impliquer, pour aller plus loin dans ta relation personnelle avec lui. Attention au somnifère inconscient de la déception. Puis, check, hey, je vais être honnête avec vous, hein, on est humain. Je veux pas te culpabiliser ce matin puis dire si t'es fatigué, t'es une mauvaise personne. Pas du tout! J'ai 37 ans, laisse-moi te dire qu'à 27, j'avais beaucoup plus d'énergie. À 17, je pétais le feu. Mais à 37, je commence à le sentir, la fatigue, là. OK, on est dans la même équipe, puis tous ceux qui sont un peu plus vieux, vous riez de moi présentement. Vous avez le droit, mais je le sens, je le sens. Mais je ne veux pas être endormi spirituellement. Puis j'ai 37 ans, hein, puis ça fait, puis j'ai grandi dans l'Église, mais j'ai souvent entendu le fameux terme « le réveil ». C'est quoi le réveil? Le réveil, il va avoir le réveil. Quand est-ce qu'il va venir le réveil? Puis que tout d'un coup, on va se réveiller, puis les gens vont courir pour venir à l'Église, puis les non-chrétiens vont tous courir pour venir à l'Église. Le réveil, on attend le réveil, on prie pour le réveil. Il y a même des livres qui ont été écrits sur le réveil pour dire que le réveil va arriver. Mais le réveil, il est simple. Le réveil, là, il est à présence le dimanche matin. C'est ça le réveil. Et ton implication le dimanche matin qui est simple, c'est ça le réveil. Te joindre à un groupe, tu contribues au réveil. Prier pour ton église, prier pour nous, ça contribue au réveil. Des fois, le réveil, c'est des choses très simples. Proverbe 24, 30 à 34 va dire, « J'ai passé près du champ du paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvue de sens. Et voici, elle était toute couverte d'orties, et sa surface en était couverte de chardons, et la clôture de pierre en était abattue. J'ai regardé cela, j'ai pris cela à cœur, j'ai vu, j'ai reçu l'instruction, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour rester couché, et la pauvreté viendra sur toi comme un rôdeur, et la disette comme un homme armé. » Les proverbes, justement, c'est rempli de comparaisons, de justement cette image-là avec le sommeil et à l'opposé, justement, que lorsqu'on est éveillé, lorsqu'on est productif, il y a un fruit qui vient avec. Et cette image d'un fermier que si le fermier dit « Ah non, mais je vais dormir, mais non, je vais dormir, oh, je vais snoozer, je vais mettre mon alarme plus tard. » Mais finalement, le fermier ne va rien avoir puis il n'y aura rien. On doit réaliser que, moi, je ne veux pas vous condamner ce matin ni culpabiliser, mais juste voir quel est l'opposé, quel est le fruit lorsqu'on est éveillé. Que oui, on sait qu'on ne veut pas dormir, on ne veut pas être des chrétiens endormis, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez une église où il y a un réveil qui se passe et on peut voir Dieu lorsqu'on est tous éveillés. Bon, il y a un éléphant dans la pièce, puis je veux en parler ce matin. J'ai été visiter une église à Québec dernièrement, dont je ne nommerai pas le nom. Une église qui vit un réveil. Il y a beaucoup de monde à cette église-là. Puis j'étais assis dans la salle. Puis moi, je suis pasteur, hein, tous les pasteurs, on le vit. Tu regardes toutes les choses que toi, tu t'aimerais faire, toutes les choses qu'eux font qu'ils ne devraient pas faire, puis tu critiques, puis tu fais ta liste. Mais le Saint-Esprit m'a repris puis m'a dit, « Emmanuel, regarde les belles choses qui prennent place ici. Wow! » Puis il y a un nouveau qui arrivait dans le stationnement puis qui était comme, « Je ne sais pas où aller, je viens à l'église. » Puis j'étais comme, « Wow! » T'es édifié de voir ce qui prenait place. Et vous savez, ce n'est pas une gang de personnes qui dit, « Oh non, on va juste rester dormir. On va rester. On ne veut pas voir le réveil. Nous, on veut juste laisser la... Oh non, on n'a pas besoin, nous, non. Oh, je vais rester dans mon confort. » Non, non, non. La réalité, c'est qu'on va... Oui, on ne veut pas se brûler, mais on doit garder cet esprit de... On est réveillé, d'alerte, de dire, « Seigneur, on veut servir ton royaume parce qu'il y a un fruit qui va prendre... Il y a une bénédiction qui va prendre place. » Amen! Et dernièrement, mon troisième point, c'est que Jésus est la solution à notre sommeil. Jésus est la solution à notre sommeil. Acte 20, 31 à 38. « Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler, il faut rester réveillé, ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous, alors, ont fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis, ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul à ses disciples. Moment émouvant, parce qu'ils savent que c'est une des dernières fois qu'ils vont le voir. Ils savent, puis l'apôtre Paul le sait, il y a des grandes chances qu'il soit exécuté. Mais il prend le temps de les encourager, il prend le temps de dire, « Je me suis donné pour vous », puis il donne le cœur, puis l'essence de rester réveillé, puis il partage son cœur. Mais l'apôtre Paul ne met pas la lumière sur lui, il ne prend pas le temps d'énumérer tout ce qu'il a accompli, il met la lumière sur Jésus. Il met le spotlight, les projecteurs sur Jésus. Il reconnaît que Jésus est celui qui lui a donné la force. Jésus lui a donné la force de pouvoir continuer, de ne pas abandonner. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je le sais, dans notre société, c'est dur. On est centré sur le moi, le nouveau iPhone. Apple nous vend le moi, il est pour toi, tu en as besoin, tu ne savais pas, tu en as tellement besoin. Moi, mais j'ai déjà le 14, tu as besoin du 15, il est pour toi, prends-le, c'est pour toi. L'individualisme, moi. Mais Jésus vient nous dire, hey, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à rester réveillé pour l'autre que de recevoir pour toi. Il y a une bénédiction qui vient avec. Il y a une richesse, il y a une profondeur, il y a une bénédiction qui vient avec le fait de donner ton temps, ton énergie, ton argent pour son royaume. Moi, je veux vous le dire ce matin, je suis tellement reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tous nos animatrices, animateurs qu'on a vus. Mais je suis reconnaissant pour quelques-uns en particulier que je veux prendre le temps de nommer puis partager un peu leur témoignage. D'abord, Jean et Chantal, je parlais avec Jean cette semaine, justement, on coordonnait tout ça pour les groupes. Et Jean et Chantal sont un couple que j'ai appris à connaître, qui servent Dieu, qui sont impliqués à plusieurs aspects à l'Église, aux premiers soins, aux événements, lorsqu'il y a des événements, par exemple la fête de Noël, ils étaient très impliqués, ils sont impliqués à plusieurs endroits, ça se peut que j'en oublie, Jean et Chantal, excusez-moi. Ils suivent des couples, font des cours de préparation mariage avec les couples de l'Église, sont formés pour ça et ils servent beaucoup. Puis cette semaine, je parlais avec Jean et puis Jean est un athlète, Jean est en forme, il s'entraîne, il continue, il lâche pas. Et puis Jean est un jeune homme en forme et quand je vais avoir ton âge, Jean, je vais être comme toi. Et Jean me disait qu'il commençait la natation cette semaine. Il dit, j'ai commencé la natation, Emmanuel. Puis il dit, mon but avec la natation, c'est de rencontrer des non-chrétiens. Mon but, c'est de rencontrer des non-chrétiens. Puis il disait, je les ai rencontrés, puis ils m'ont présenté, puis il est excité, puis il est content. Jean est éveillé. Il est à la retraite, il a donné, il a servi, il s'est impliqué dans le royaume, il a tellement donné, il n'est pas obligé. Mais il est éveillé, puis il veut voir le royaume de Dieu avancer. Moi, ça m'inspire. Reconnaissant pour les Paul, comme Jean et Chantal. Je suis reconnaissant pour les Éticus aussi. Nicolas et Amélia, il y a une photo qui va apparaître à l'écran, une photo de leur couple, c'est un jeune couple de notre église qui vont animer le groupe pour les jeunes familles. Et Nicolas et Amélia vont à Mosaïque depuis Mosaïque Université. On avait un campus à l'université. Ils étaient impliqués là pendant plusieurs années et ils ont commencé à travailler. Il y a eu la pandémie, ils ont eu un enfant. Puis Nicolas et Amélia ont été très honnêtes. Ils m'ont dit « Hey, on revient tranquillement à l'église. On a eu une pause. On a eu un moment où on dormait un peu plus. Mais maintenant, on veut se réimpliquer. » J'ai pensé à eux pour justement être responsable de ce groupe pour les jeunes familles. Puis c'était beau d'entendre et d'être authentique, mais dit oui, on a eu cette pause, on a été peut-être un peu endormi, mais on revient. Je suis reconnaissant pour les Eutychus. Merci pour les Paul. Il faut aussi des Eutychus. Mais il y a des Paul, vous êtes sur votre chaise présentement, vous êtes chrétien depuis longue date. On a besoin de vous. On a besoin que vous soyez réveillés. Ça nous fait tellement du bien. Je vous le dis, là, je vous parle sincèrement de mon cœur. Il n'y a rien qui m'encourage plus de voir des gens qui servent le royaume de Dieu. Moi, je n'ai pas choisi ce métier-là. C'est Dieu qui m'a un peu imposé cette job. Mais je le fais avec joie. Mais ce qui me bénit, c'est de voir des gens qui servent son royaume. De voir des gens qui donnent du temps pour l'avancement de son royaume. Des Paul et des Eutychus. Des différentes générations qui servent son Église. Puis tu ne peux pas imaginer à quel point ça peut avoir un impact. Mais je veux dire ce matin que Jésus ne dort plus dans la barque. Puis des fois, peut-être tu vis des défis, tu vis des situations, ça t'empêche de justement être réveillé et de le servir. Mais je veux te rappeler ce matin. Peut-être que tu combats avec certaines choses, tu vis des défis, puis pour toi, c'est dur de rembarquer avec Dieu. Dieu, est-ce que tu m'as abandonné? T'es où? Puis j'ai vécu des déceptions ou quoi que ce soit. Mais je veux te dire, Jésus est avec toi. Peu importe tes défis, peu importe le fait que tu sois parfait, tu penses que tu dois être parfait, parfaite pour servir Dieu. Non! Jésus ne dort plus dans la barque. Malgré tes tempêtes, malgré tes défis, tes situations, ce que tu vis dans ton couple, dans ta famille, il ne dort plus. Au contraire, il a vécu l'ultime sommeil, la mort. Il est réveillé, il veut marcher avec toi, il veut t'accompagner. Mais donne-lui l'opportunité, en tenant sa main, en faisant le petit pas, que ce soit dans ta vie personnelle, des disciplines spirituelles, mais en servant dans son Église, je te garantis, puis j'ai passé par là, tu vas voir qu'il va avoir un réveil dans ta vie. Il va avoir un réveil dans ton cœur, dans ta famille, dans ta communauté. Ça va être extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble en terminant. Les musiciens vont commencer à jouer. Qu'on puisse avoir une attitude de prière. Qu'on puisse avoir une attitude de prière. Prie pour toi ce matin. T'es un Paul, t'es une Paulette, t'es une Eutychus. Prie pour toi ce matin. Puis la Bible dit que chacun examine son cœur. Que chacun examine, que chacun s'examine soi-même. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Si tu es un Paul ou une Paulette qui est impliqué, merci Seigneur. Tu es une Eutychus qui est impliqué, merci. Mais que Dieu, ce matin, examine ton cœur pour que tu puisses commencer à le servir à la mesure que tu peux. Dans ta vie personnelle, à recommencer à lire ta parole, à commencer à prier, à te rapprocher de lui, mais aussi à servir son Église. Prie pour un réveil dans ton cœur. Prie pour un réveil dans ta famille. Simplement parce que toi, tu vas vouloir commencer à le servir. Alors qu'on va chanter ce chant. Moi, je pense que c'est dur d'acclamer Jésus dans son sommeil. Acclame Jésus ce matin avec tes louanges, avec ton chant, mais avec ton temps, avec ton service, peu importe ton âge, peu importe que tu sois Paul ou Eutychus. Prends le temps de louer ce matin, de lui rendre gloire. Acclamons Jésus.